Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bon temps des fêtes et que vous avez bien profité de chaque instant entouré de vos proches. Je suis toujours contente de vous avoir à l'écoute du podcast et c'est toujours un plaisir pour moi de vous partager le plus de connaissances possibles sur la profession infirmière et les dessous du système de santé au Québec. Dans les prochaines minutes, je vous laisserai à la discussion très enrichissante que j'ai eue avec Claude Gagnon, un professeur en soins infirmiers qui a toute une drive et qui donnait des cours loin d'être longs et ennuyants, même quand ça parlait de voix, le cours le plus redouté de tous les enseignants. Le plan de base était de parler de stage, mais sa passion pour l'enseignement nous a mené vers ses techniques d'enseignement pour captiver ses élèves. Allô Claude!
Bonjour Ariane!
Ça va bien?
Oui, vous-même!
Oui, et bonne année 2023!
Merci, toi aussi!
Fait que aujourd'hui, Claude, t'es là pour nous parler de ton parcours, puis nous expliquer un peu comment ça fonctionnait en stage, à l'école, un peu les dessous du côté de l'enseignement.
OK. Moi, j'ai jamais vu de dessous. J'ai toujours vu des dessus. Alors, parce que des dessus, en ce sens, D-E-S-S-U-S, hein, les au-dessus.
Ouais.
J'ai toujours trouvé que c'était une super de belle profession enseignée parce que c'est, pour moi, c'était le partage des connaissances. C'est ça que je trouvais qui était le plus symbolique dans cette profession-là. Quand tu aimes ça, là, et que tu le fais, et que tu vois les jeunes, et que tu veux les faire grandir dans cette profession-là, c'était extraordinaire.
OK. Toi, ton parcours, ça remonte peut-être à là, longtemps.
Ah, ça fait très longtemps.
Si
là.
On remonte, mettons, ton parcours scolaire, est-ce que c'était pareil avant que maintenant, ou c'était des différents cheminements?
C'est sûr que moi, quand j'ai fait mon cours à Chicoutimi, il n'y avait pas d'Écosse, il y avait très peu d'examens de laboratoire. C'était très théorique.
OK.
Ce qui est survenu, c'est que dans les années 90, par la suite, je dirais que est arrivé qu'on a voulu rehausser la profession infirmière. Et puis, pour faire ce rehaussement-là, bien, il a bien fallu donner des compétences.
Okay? Ouais.
Bon, alors là, c'est toutes les notions de socio-constructivisme qui sont arrivées, le cognitivisme aussi. Alors, c'était super intéressant. Bon, alors, moi, quand j'ai travaillé à l'hôpital de Verdun, j'ai un de mes amis qui m'a dit « Ça te tenterait-tu d'enseigner? » Ah, j'ai dit « Peut-être, OK, mais je ne sais vraiment pas de quoi tu parles. Okay? »
Ouais.
Alors, antérieurement à ça, moi, quand j'ai fini mon DEC au cégep, j'ai fait un bac, parce que moi, je voulais devenir un boss d'hôpital.
OK.
Je voulais devenir un directeur des soins ou peut-être même un directeur général.
Ouais.
Fait que j'ai fait un bac en administration des services hospitaliers. Mineure en gestion des ressources humaines et une majeure en gestion des services de santé. Mineur, ça veut dire 30 crédits, majeur, 60 crédits pour faire ton bac de 90. Puis après ça, je me suis aperçu que ça ne m'intéressait plus une fois que mon bac a été fini. Fait que j'ai continué à travailler à l'hôpital de Verdun, un petit peu à Saint-Luc aussi, et à l'hôpital général de Montréal en département de physiothérapie pour okay. les gens qui ont fait des AVC et chirurgie du genou et de la hanche. Un de mes amis m'a dit « Ça tenterait-tu d'enseigner? » Bon, OK. J'ai dit « Oui, il faudrait bien que je vois de quoi ça a l'air. » Fait que je suis allé voir comment est-ce qu'il faisait, donner ses cours. Et là, j'ai trippé. J'ai tellement aimé ça. Et lui, il avait un sens de l'humour très développé. Et c'est ce qui faisait qu'il créait un climat dans ses classes tellement agréable. Et tout au long de ma carrière comme enseignant, c'est tout le temps ce que j'ai voulu reproduire.
Ouais.
Déstresser la situation et amener beaucoup d'humour.
Ouais.
Moi, je fais à chacun de mes débuts de cours, je comptais toujours une joke. OK?
Si une je farce. Peux en entendre une.
Bon.
Je suis prête.
Attends un peu, là. OK. On est le 26 juillet, c'est la fête de la Saint-Anne, OK? Puis un bonhomme qui a une jambe de bois.
OK.
Le bonhomme, il rentre dans la procession, puis là, il entendait tout le monde chanter. Oh Seigneur, donnez-moi, je sais plus trop quoi, là, mais en tout cas, donnez-moi semblable à l'autre. Donnez-moi mon cœur semblable à l'autre, OK? Bon. Fait que là, lui, le bonhomme, il commence à chanter, puis lui, il avait une jambe de bois, ça fait qu'il suivait la procession, puis il disait « Oh Seigneur, donnez-moi ma jambe semblable à l'autre! » Fait que là, on entend crier « Miracle! Miracle! » Le bonhomme s'est réveillé avec deux jambes de bois. Ah! Es-tu bonne? Non, mais c'était tout le temps ce style de petit joke.
Juste pour détendre l'atmosphère.
Et puis, quand j'enseignais aussi ce que je faisais souvent des erreurs.
OK.
Volontaires.
Ouais.
OK. Et là, à un moment donné, j'attendais, à un moment donné, je prenais un petit moment d'arrêt, j'ai dit, qu'est-ce que je viens de dire là? Et là, j'attendais de voir s'il y avait quelqu'un allait me répéter ce que j'avais dit pour savoir est-ce que c'est correct ce que je viens de dire. Bon. Alors, ce qui fait que je reviens en l'an 2000, je suis allé voir comment ça se passait à une classe d'enseignement au cégep André Laurendeau. Et là, on me dit, moi, j'ai aucune formation en enseignement. Alors, là, j'ai dit, qu'est-ce que je ferais? Ben, bon, ben là, ils m'ont dit, ben, va faire ta maîtrise en sciences infirmières avec l'option enseignement des soins. Sauf que quand je suis arrivé à la maîtrise, pour me faire accepter à la maîtrise, ils m'ont dit, ben, c'est parce que t'as pas de bac en sciences infirmières, il faudrait que tu ailles faire ton bac avant. Ah, ouais. OK. Je suis allé faire mon bac en sciences infirmières. Et après ça, j'ai pu accéder à la maîtrise en sciences infirmières avec option enseignement des soins. Fait que ça, j'ai fait ça tout au long de 2001 à 2007.
OK.
Par les soirs, fin de semaine, travail au travers de ça et tout ça. Ensuite de ça, bon, là-dessus, en 2002, j'ai passé une entrevue pour enseigner au cégep André Laurendeau. Et ça a été une catastrophe, OK? Les questions qu'on me posait, aucun, je savais rien.
C'était okay? Des questions sur,
sur l'enseignement, qu'est-ce que tu ferais dans telle situation, connais-tu, qu'est-ce que ça veut dire, les approches par compétences, l'approche par problème, l'approche par situation clinique. Bon, OK, c'est beau, je m'en vais. Je suis parti.
OK.
J'ai dit, ça marche pas mon affaire, je suis mal préparé puis tout ça. Mais la deuxième fois, par exemple, OK, là, je m'attendais aux questions qu'ils allaient me poser. Et là, quand on m'a demandé, entre autres, ben, vous savez, les fameuses questions par rapport au modèle conceptuel. Ah! Bon, on m'a demandé quel modèle conceptuel que je connaissais. Ben, je leur ai dit, j'en connaissais au moins 6 ou 7. Je venais juste des apprendre au bac. Alors, ça a été bien fun. Et eux, c'était le modèle McGill, qui était évidemment qui est utilisé partout au ouais. Québec. Et là, on m'a demandé d'expliquer une situation. On parlait d'une femme qui avait une plaie, je crois. Et qu'est-ce que je faisais avec ça? Ben, là, il fallait que j'explique le processus. Et voilà. Bon. Parce qu'il faut savoir que le modèle conceptuel, ça définit ta profession infirmière.
Ouais.
Mais tu as besoin d'une démarche scientifique pour dire comment est-ce que je vais faire ma profession infirmière. Tu sais, il y a une définition que tu peux faire avec ton modèle. Mais ta démarche, c'est ça qui va te permettre de... Tes étapes, tes 5 étapes de la démarche scientifique, c'est ça qui va te permettre de pouvoir travailler, si je peux dire. Donc, j'ai commencé André Laurendeau en 2002. Ça a super bien été. Les stages, par contre, c'était à l'hôpital La Chine. J'avais jamais mis les pieds là. Je suis allé m'orienter durant l'été. Et là, ça marchait différemment qu'à l'hôpital de Verdun que je connaissais. Moi, j'ai toujours travaillé sur des départements de chirurgie. D'ailleurs, les 5e étage dans tous les hôpitaux, je pense, sont prédestinés à être des départements de chirurgie. Fait que, à la Chine, bon, j'étais allé là quelques jours me faire orienter. Il ne fonctionnait pas de la même manière. Mais j'ai vu des étudiants qui étaient déjà inscrits à André Laurendeau, qui venaient travailler comme CP durant l'été. Et là, je leur demandais, comment vous faites vos quand vous recevez un client de la salle d'op, qu'est-ce que vous faites? De la salle de réveil, qu'est-ce que vous faites? Et chacun avait un petit peu une réponse différente. Certains qui m'apparaissaient plus insécures allaient voir l'appareillage d'abord.
Okay.
Et les gens qui, pour l'appareillage, c'est une chose, mais que c'est la personne qui est plus importante, on s'occupe de la personne. Que ta pompe volumétrique est mal programmée, ça n'a aucune importance. Ben, je te dis pas que c'est de l'insuline ou d'un anticoagulant dedans, puis ça coule à 100 ml à l'heure, il y en a un problème. Là. Mais il y a quelqu'un qui est mauditement mal programmé, mais peu importe.
Si c'est un petit NS à
bon, 50 000, OK, oui, c'est ça. Tu sais, ça, c'est pas tellement grave. Fait que là, je me suis aperçu que, bon, là, tout de suite, j'ai accroché sur ça. Parce que quand je voyais les étudiants, les miens, quand on allait en stage à l'hôpital de Verdun ou à la Chine, alors je me suis dit, là, il y a quelque chose qui ne marche pas parce que je vois qu'il y a une différence entre les notions acquises par certains étudiants qui m'apparaissent plus, comme j'étais un peu plus insécure dans leur façon de fonctionner quand les gens arrivent de la salle de réveil. Ce qui fait que moi, j'ai travaillé là-dessus. C'était mon sujet de mémoire de maîtrise par rapport à donner une méthodologie de travail dans certaines situations un peu plus complexes de soins. Pour que ça devienne facile. C'est ça qui est important, dans le sens de dire qu'il faut que tu comprennes tout le processus, mais que ça devienne facile d'intégrer ce processus-là dans tes tâches. Alors, j'ai fait ça, j'ai fait ma maîtrise en sciences infirmières, option enseignement des soins. J'ai adoré ça, sauf les cours de statistiques. Ça, je peux-tu vous dire que...
OK. C'était pas ton dada.
Les cours méthodologie de recherche. OK. C'est bon. C'est intéressant. Enfin. Mais ce qui est intéressant à la maîtrise, c'est que les classes étaient très petites. Puis il y a des cours qui se donnaient durant l'été uniquement. Puis là, je me disais au mois de juillet, mais je dis, faut-tu saillir pour venir suivre des cours de soins infirmiers, des sciences infirmières, en plein cœur de mois de juillet quand il fait 34 degrés dehors? On est quatre dans la classe. OK. Bon, alors, tout ça fait, ma maîtrise, j'ai fini ma maîtrise. Et puis, André Laurando, à un moment donné, là, je voulais connaître autre chose. Bon, là, j'ai produit plusieurs documents à André Laurando. J'ai trippé André Laurando. OK? Et à l'époque, André Laurando, on faisait encore, après les fins de session, des Écosses.
Ouais.
Qui, malheureusement, n'existent plus aujourd'hui. Je parle aux examens de l'ordre.
OK, ouais, abonnés. C'est ça.
On en reparlera peut-être
tantôt. Ouais.
Et à ce moment-là, moi, on rit. C'était tellement drôle de faire ces Écosses-là, les examens d'intégration qu'on appelle.
Ouais.
Pour nous, les profs, c'était drôle. Mais pas pour les étudiants, par exemple. Okay? C'était comme un peu préparatoire aux Écosses de l'ordre qui s'en venaient, mais différent, on s'entend. Alors, ce qui fait qu'à un moment donné, en 2008-2009, je suis parti un an. On a fait un échange de profs. Il y a un prof de l'Université du Québec à Chicoutimi qui voulait venir à Montréal pendant un an. Puis moi, j'ai dit, Chicoutimi, je viens de là. Je suis allé enseigner à l'Université du Québec à Chicoutimi pendant un an de temps. Session hiver 2009 et automne 2009. Non, automne 2008, excusez. Automne 2008, on est le 3 janvier, hein, c'est que regarde. Automne 2008 et hiver 2009. Et là aussi, là, j'ai trippé enseigner à cet endroit-là. D'abord, l'UQAC, c'est un petit complexe universitaire, mais tellement bien aménagé. Tu ne vas jamais dehors. Il y a des passerelles partout dans les airs qui te réunissent tous les pavillons. C'est super intéressant. J'avais trois classes. Hey, c'est pas gros, là. Trois cours par semaine, tu es à temps plein. Hein? On s'entend-tu? Ce qui fait que j'avais deux cours. Un cours de perfectionnement, puis un cours de personnel infirmier qui était déjà gradué. Puis j'avais deux classes de gens qui étaient en sciences infirmières avant d'être infirmier au complet. Ça aussi, là, j'ai trippé. J'ai produit beaucoup de documents aussi là-dessus. Et entre autres, un qui était les chemins de la douleur. J'ai adoré monter ce cours-là. C'était un cours de 5 crédits. Ça durait 4 heures et demie. Mais j'ai trouvé ça super le fun. J'aime beaucoup m'entendre pouvoir parler du cheminement de la douleur.
OK.
Théorie, on s'entend, là. Moins drôle en pratique.
Ouais.
OK. Mais je veux juste faire une petite parenthèse. Entre-temps, moi, quand j'étais jeune, beau, fort et musclé, je faisais beaucoup de bicyclette. OK. J'ai chuté. Je me suis blessé un genou. Et à un moment donné, bon, la médication, arthroscopie dans le genou, bon, OK, ben tu vas rester un petit peu avec des séquelles. Ah, ben non, je dis pas vrai, là. Pas à 30 ans avec des séquelles, marcher avec une canne. Wow, non. Ben, je suis allé faire de l'acupuncture. OK? Et c'est l'acupuncture qui a fait partir de ma douleur complètement. Ah ben, je dis, c'est tellement beau! Moi, je veux savoir qu'est-ce que c'est cette affaire-là, l'acupuncture. Fait que de 98 à 2001, j'ai fait mon cours d'acupuncture aussi à la seule place, au cégep André Laurando. Non, pas vraiment. Au cégep de Rosemont. 3 ans temps plein. Et ce n'est que des cours de concentration. Tu n'as pas de cours de philo. Alors, quand ils sélectionnent les étudiants en acupuncture, ce sont tous des étudiants qui ont déjà un autre deck à quelque part, alors que tous les autres cours sont faits. Parce que ce ne sont que des cours, parce que le cours est très, très, très chargé.
Okay.
Mais j'ai trippé là, comme ça ne peut pas. Ceci dit, ça c'est une petite parenthèse. Fait qu'en somme, j'ai deux decks, deux bacs, une maîtrise, trois cours de doctorat. Parce que quand je suis allé à l'UQAC, quand tu enseignes dans les universités, on te demande, avec une maîtrise, tu peux enseigner dans les universités du Québec.
OK. Encore en 2022?
Oui, tu peux encore enseigner, mais tu vas être chargé de cours. Tu ne deviendras jamais un professeur titulaire d'un cours.
OK. Okay.
Tu es chargé de cours. Mais qu'on te demande, par contre, si tu veux donner des cours, c'est-à-dire si tu veux accéder au doctorat, on va te faciliter la tâche. Alors, moi, j'ai pris 3 cours. Encore des cours de statistiques. Initiation à la recherche et éthique et recherche. Mais c'était, éthique et recherche, ça, c'était intéressant quand même. Ça dépend de la recherche que tu fais.
Ouais.
Mais j'ai trouvé ça très fun aussi. Bon. Mais ça s'est arrêté là. Je pense que mon cerveau, il avait acquis sa finalité en soi. Il n'était plus capable.
Trop de cours.
Fait que quand je suis revenu, André Laurendeau, à l'automne 2011, là, le trafic Saint-Hyacinthe-Montréal, j'étais plus capable.
Ouais.
J'ai donné ma démission.
OK.
Et là, le reste de l'hiver, le reste de la session d'automne, OK, puis en allant en janvier, j'ai vu que le cégep de Saint-Hyacinthe demandait des profs. J'ai passé une entrevue, mais tellement ri dans cette entrevue-là, j'ai eu du plaisir, ça se peut pas. Il y avait une dame qui était une assistante, une adjointe à la direction des études, que je salue d'ailleurs, Mme Derry. Et il y avait 3 profs aussi et une personne des ressources humaines. Alors, quand tu passes une entrevue comme enseignant, on te pose des petites questions, modèles conceptuels, ces choses-là. Qu'est-ce que tu fais dans telle situation? Et ensuite, on te demande de faire un petit enseignement de 10 minutes à peu près. On te donne déjà le sujet avant. Attends un peu, moi, c'était quoi déjà? En tout cas, peu importe. Tu prépares ça sur PowerPoint, tu amènes une clé et ça, et là, maintenant, tu te lèves et tu donnes le cours aux 3 personnes qui sont présentes. Mais là, on a ri. C'était incroyable. J'ai tellement aimé cette petite entrevue-là. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que moi, j'ai passé mon entrevue le mardi, je parle. Le vendredi, on m'appelle. Le lundi, je commence. OK? Alors là, moi, comme je ne connaissais pas l'hôpital de Saint-Hyacinthe, on m'a emmené avec un autre prof faire pas de supervision de stage, mais aller voir comment ça se passe sur les départements.
Au 5e étage.
J'ai fait le 5e, le 6e. Ah non, c'est pas vrai. Ma première expérience, c'était au 11e. OK. Mais le groupe que j'avais, c'était des finissants, c'était eux qui s'en allaient... en voyage
humanitaire.
On a eu du plaisir. Les étudiants en connaissaient quasiment plus que moi sur la médication en psychiatrie. On s'entend dessus, là?
Okay. Parce que le 11e étage à Saint-Hyacinthe,
c'est la psychiatrie. Mais je pense que c'est plus
la psychiatrie, mais c'était...
C'était ça dans le cadre. Et moi, j'ai jamais travaillé en psychiatrie. OK? Bon, voilà. Mais c'était pas grave, c'était juste pour quelques semaines parce qu'après, je m'en allais au 5e. Ah, ça, j'ai adoré ça. On a tellement ri. Et c'était des étudiants. Moi, c'est ça que j'aimais, c'est parce qu'on se prenait pas pour d'autres, puis on avait beaucoup de plaisir avec les étudiants. Moi, à Montréal, que ce soit à l'hôpital Saint-Luc, la Chine ou à Verdun, quand les étudiants... moi, j'arrivais, mettons, je préférais être de soir parce que je recevais les clients de la salle de réveil.
Ouais.
Alors, c'était pour moi idéal pour... partage de connaissances. Ce qui fait qu'à un moment donné, je regardais sur la feuille au poste, bon, moi je prends lui. Je n'allais pas les voir avant. Je prends tel patient. Et là, j'arrivais, puis je disais aux étudiants, bon, toi, t'as celui-là, celui-là. T'as celui-là. Et là, évidemment, les étudiants, ils arrivent tous, ils vont. Là, je vous allais faire votre première évaluation. Revenez me voir après. Et là, il est 6-7. On était 7, André Laurendeau. Ah, voilà. Hey, le mien, son pansement au genou, là, ça saigne, son pneumovac est full plein. L'autre, elle me dit, hey, il respire juste à 8, mon patient. L'autre, elle m'arrive, puis elle me dit, bon, ben, le pansement, il est décollé. L'autre, c'était qu'il n'y avait pas de poumons. OK. On va y aller en priorité. Lequel qui respire plus? Ah oui, c'est parce que moi, je disais tout le temps, moi, je suis pas une femme. Je suis pas capable de faire 3-4 choses en même temps. Un patient à la fois. OK? Vous autres, les femmes, c'est sûr, vous êtes capables de faire 3-4 patients en même temps. Moi, je suis pas capable.
Ouais.
Lequel qui respire pas, on va aller faire lui avant. Prends tes 5 vitaux, respire à 8, on enclenche le protocole de naloxone, prépare-le, on va lui donner ça. Narcan.
Ouais.
Et après ça, ben, etc. Là, le pansement qui saigne, ça n'a aucune importance. Parce qu'il faut que tu saches c'est quoi la différence entre une hémorragie ou un saignement normal versus une hémorragie. Donne-moi tes symptômes de signe hémorragique versus que l'hémorragie soit pleine. C'est pas grave, ça. Dis-moi si c'est... T'as deux patients pareils, un à côté de l'autre. Deux chirurgies du genou. D'ailleurs, les chirurgies du genou, ça saigne énormément.
Ouais.
Il y a beaucoup d'épanchements sanguins. Lequel est en hémorragie, puis lequel est un saignement normal? Donne-moi la différence entre les deux. OK? Bon, alors c'est ça que je demandais. Mais dans mes cours, je me suis aperçu que, moi, quand j'ai fait mon cours à 17 ans, j'étais extrêmement stressé, anxieux, nerveux, en pédiatrie, là. Oh! Ah, des beaux petits poupons qui sont en pleine santé, c'est beau, c'est le fun. Mais les petits poupons connectés partout, là, oh! Oh, j'en ai-tu versé des petites larmes? Bon, pas capable. Alors, moi, j'ai eu des profs qui m'ont pris par la main, notamment en obstétrique et en pédiatrie, quand moi, j'ai fait mon cours. Mais je me rappelais fort bien que quand les étudiants y arrivent en stage, on est nerveux comme ça, se peut pas.
Okay? Ouais.
Souvent, en classe, quand je donnais mes cours, quand je donne des cours, je mets les étudiants en situation d'apprentissage. En ce sens que, un exemple. OK, ce matin, on va revoir notre feuille, la FADM, la feuille d'administration des médicaments. On va regarder ça, comment ça fonctionne et tout ça, parce que là, la semaine prochaine, on va être à l'hôpital. Il va falloir que vous soyez capable de la remplir, cette feuille-là. Alors, OK, Ariane. Normalement, je prenais la plus timide de la classe. Je ne sais pas si Ariane est la plus timide, mais en tout cas...
Je pense pas.
Bon, OK. Bon, alors, ça ne sera pas Ariane, mais...
Amélie,
bon, viens ici, là. OK, Amélie, moi, je suis ton patient. Tu m'amènes des médicaments, puis tu me parles. Tu rentres dans la chambre. Je t'écoute. Alors, elle vient me voir. Elle dit, bonjour, monsieur. Elle dit, je m'appelle Amélie. Je viens vous donner vos médicaments. J'en veux pas de tes calices de pilules. Mais non. Pleure pas, là. OK? Elle vient me voir, mon patient, il ne m'aime pas. OK? Moi, je leur dis, dans ça, qu'est-ce que vous faites? Bon, là, ils viennent te dire, ils viennent t'envoyer chier carrément. OK? Qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas à pleurer, là. OK? Viens me voir, puis là, tu me dis, qu'est-ce que tu as fait? Il t'a refusé ses médicaments, qu'est-ce que tu lui as expliqué? OK? Parce qu'il faut bien savoir que les gens hospitalisés, ben, ils n'ont pas le sourire fendu jusqu'aux oreilles. OK? Alors là, à un moment donné, je leur dis, qu'est-ce qui est important? Bon, OK, c'est sûr, mais arrête. Et là, je ciblais dans les classes les jeunes qui m'apparaissaient les plus susceptibles d'être confrontés, et ça faisait exprès qu'ils étaient confrontés devant des situations plus complexes. Pourquoi les plus habiles, si je pourrais dire, avaient des bons patients, alors que moi, je n'allais pas les voir avant? Et pourquoi les jeunes qui avaient le plus de difficultés, ça arrivait, et on dit tout le temps qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, là, mais ça arrivait tout le temps que c'était elle ou lui qu'il y avait un patient plus complexe, une gestion de client plus difficile. Puis là, je leur donne un exemple. Moi, j'ai fait une pierre au rein dans ma vie, OK? Une petite lithiase rénale, OK? Je venais de prendre de la bière l'après-midi avec des chums. Là, je tombe dans l'escalier chez nous. Là, je leur dis, ah si, j'ai un cancer qui vient de me péter dans le ventre. Je sais pas ce que j'ai là, mais je vais crever là. Un méchant coup de pied. Les chums des appellent l'ambulance, me ramassent à l'hôpital. Et là, je sac après les ambulanciers. Parce que je sais pas si vous le savez, mais quand c'est une douleur viscérale, t'as pas de position antalgique. Okay? T'es pas capable de rester figé de même. C'est pas comme quand tu fais un appendicite, parce qu'un appendicite, plus tu augmentes les mouvements, plus tu crées une augmentation de la pression intra-abdominale, et là, la personne ne veut plus bouger. Versus une lithiase rénale, par exemple, la personne n'a pas de position. Et eux, ils m'avaient attaché, serré sur la civière. Hey, détache-moi, je vais voir. Détache-moi. Et je sacrais comme un fou après les gars. Là, il me dit, si tu arrêtes pas, on te met sur le trottoir. Je savais très bien qu'il le ferait pas. Arrive à l'urgence. Ah! Oh! La belle petite infirmière de 22-23 ans. Ah, là, j'étais dans le lit, mais si j'ai là. Puis là, je sacrais comme ça, ça se peut pas. Elle dit, je vais vous installer un soluté. Je dis, quoi, qu'est-ce que tu dis, là? Elle dit, je vais vous installer un soluté. Et on, ben oui, mais quel est ton soluté? Viens, je pars, lis le protocole de morphine, prends pas 5 heures. Et je sacrais après elle, là, ça n'avait pas de sens, OK? Elle a cherché sur le... Non, non, mets-le pas là, mets-le dans le coude, ça va aller bien plus vite, là. Je le plierai pas, mon bras. Pauvre petit. Et là, je compte ça aux étudiants. OK? Moi, je ne suis pas un bon patient. Et pourtant, je connais la dynamique, OK? Et là, après ça, à un moment donné, là, je lui dis, écoute, là, j'ai dit, bon, là, 2-3 shots de morphine. Et là, je lui dis, donne-moi. Là, j'ai dit, j'ai pris de la bière. Ah oui, la femme de l'urgent, la femme médecin, elle vient me voir. Elle me dit, vous savez, monsieur, hein, elle dit que, vous savez que la douleur était d'une douleur de l'ittias rénale, d'une pierre au rein, c'est pareil comme un accouchement. Ben, j'ai dit, pas une épidurale dans le dos, je la couche, ta pierre l'autre. Elle a dit, c'était un crise de fou. Alors, ça va, là. J'ai passé ma soirée à sacrer. La pauvre petite infirmière, là, je lui dis, va me chercher le bladder scan. J'ai dit, j'ai bu de la bière toute l'après-midi, la vessie va mettre la thé. Elle revient. Vous savez ce que c'est qu'un bladder scan? Elle revient avec l'appareil. Elle revient avec 300 ml dans la vessie, tu sais. Là, on est bon, on passe une radio, et là, en me levant, je me lève, je m'en vais à toi, là. Et la petite pierre, on m'a donné un petit filtre, la petite pierre est sortie. Je venais d'accoucher de mon premier fœtus. Ah! Pas de sens. Et là, je le compte tel quel aux étudiants. Pour leur dire, et là, mais quand j'étais correct, là, je suis allé voir mon infirmière, je dis, écoute, je m'excuse tellement. Et là, je leur raconte que moi, je connais ça. Imagine les gens qui n'ont aucune notion de ce qui est en train de leur arriver. Et écoute, je les mets dans ce contexte-là pour leur dire que oui, vous allez avoir des patients débiles comme moi. OK? Ça va arriver, ça c'est sûr et certain. Vous n'aurez pas toujours une belle petite madame, toute bien, toute petite jaquette, toute belle fine. Non, ça n'arrivera pas tout le temps, ces affaires-là. Ceci dit, moi j'ai beaucoup aimé la chirurgie, sur les départements de chirurgie. Mais là aussi, je me suis aperçu que les étudiants avaient des petits problèmes quand ils recevaient les clients de la salle de réveil. On se gavoche un peu n'importe où. Encore là, je me regardais. Oui, c'est vrai, les plus insécures. Ah, ma pompe, elle n'est pas correcte. Là, c'est marqué dessus. Non, je dis, laisse faire ça. De toute façon, regarde. Oups. Là, j'ai mis mon dossier, mais en réalité, tu n'as pas de dossier dans les mains. Okay? Tu ne l'as même pas consulté. Moi, c'était toujours, va faire ta première évaluation clinique. Mon sujet de mémoire de maîtrise, c'était l'examen physique. Okay? L'examen clinique, qui inclut évidemment l'examen physique. Et évidemment que ça, c'était ma tasse de thé. De par ça, moi, ce que j'ai aimé à André Laurando et surtout à l'UQAC, c'était les cours par approche par problème. Eux, là-bas, ils appellent ça des approches par situation clinique. Parce que ça, ce que ça faisait, ces formations-là, quand elles sont bien structurées dans l'horaire de cours, ça te permet de travailler en équipe. La même chose que tu vas reproduire à ton vrai travail. Ça va te permettre d'être capable de travailler en groupe pour aller chercher des solutions à des situations problématiques qui peuvent être un peu plus importantes ou qui dépassent mes compétences. Moi, j'ai adoré ça. On a essayé, quand je suis arrivé à Saint-Hyacinthe, on a essayé un peu cette approche-là, mais les horaires ne le permettaient pas. Il aurait fallu régler le problème dans l'espace de 3 heures de cours. C'est pas de même que ça fonctionne. On donne une situation clinique, tu as du temps de recherche en équipe, et après ça, on arrive avec des solutions. Mais il faut bien élaborer le canevas de base pour que ça soit profitable pour tous les étudiants. C'était les situations. Moi, j'ai travaillé au 5e en chirurgie, ça a super, toujours super bien été.
Qu'est-ce que tu faisais, mettons, avec un étudiant qui arrivait en stage vraiment stressé, tu sais, pour le calmer?
Je voulais juste savoir, est-ce qu'il y avait eu un événement particulier? Est-ce que c'est la journée qui s'amorce, qui te stresse, ou bien si tu as vécu quelque chose, je sais pas, mais... un décès dans ta famille, un chum qui t'a laissé, une situation qui peut t'avoir blessé auparavant. Si c'était rien de ça, ce que je pouvais faire à ce moment-là, quand je m'apercevais que c'était non fonctionnel. C'est arrivé à quelques reprises. Je faisais travailler les étudiants en équipe.
Okay.
Je les mettais en deux par deux.
Ouais.
Ça m'est arrivé à chaque session. Une session comme tu me parles, extrêmement stressée. J'en ai eu, là.
C'est stressant, la profession.
Ah, mais c'est sûr que c'est stressant, là. OK? On joue quand même avec... On n'est pas... OK, oui, c'est ça. Tu sais, t'es dans un garage, t'es encore un matin, tu crisses un peu dans le pneu, pas sûr que le char, ça va te déranger bien gros.
Ouais.
OK, mais à l'hôpital, tu sais, un matin, tu files pas, puis t'as le goût de sacrer un coupé dans le lit, mais là, c'est pas tout à fait la même chose. OK. Mais pour désamorcer ce genre de situation-là, c'était encore là le travail d'équipe. OK? Qui fait qu'à chaque fois, ça a toujours désamorcé une situation problématique. Dans un groupe, quand on crée les groupes de stage, on sélectionne deux, trois étudiants qui apparaissent plus forts, théorie, pratique, avec deux ou trois étudiants un peu plus en difficulté. Ce qui fait que quand on arrive en stage, on ne se ramassait pas avec des étudiants un peu plus en difficulté ou des difficultés d'apprentissage. Alors, à ce moment-là, on ne mettait pas les six plus difficiles ensemble et les plus forts ensemble. Ça ne faisait pas un bon groupe de stage. Alors, de toute façon, ça va être la même chose que quand tu vas travailler. Quand tu vas travailler, il y a des journées où ça ne file pas, tu ne te sens pas bien, il y a des situations qui vont te dépasser, il y a un patient que tu n'aimeras pas en face, même des fois, ça arrive que tu vas demander à un confrère ou une consoeur au travail, « Tu veux-tu t'occuper de mon client dans tel lit? Je ne suis pas capable. » Avant que ça dégénère mon affaire, là, ou encore, dans un contexte que tu connais cette personne-là, tu as entendu parler de lui, et que tu n'es pas d'accord avec sa façon de faire ou avec sa façon de vivre ou quelque chose du genre. Donc, à ce moment-là, ce que tu fais, tu peux demander une autorisation particulière à soit ton chef d'unité ou à l'assistant-chef. Tu te dis, garde, change parce que lui, je ne suis pas capable. Ça ne marchera pas.
Ouais.
C'est préférable.
Okay?
Ouais. C'est comme on dit, est-ce qu'on devrait traiter quelqu'un de notre famille? Éthiquement parlant, on dit que c'est préférable de ne pas le faire, mais si tu es capable de le faire, ben là, c'est toujours... C'est comme je disais aux étudiants une fois en classe, on avait entendu quelque chose de parler, j'ai dit, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que vous feriez? Vous êtes à l'urgence. Il y a deux ambulances qui s'en viennent, dont un bébé en arrêt cardiaque ou un jeune enfant en arrêt cardiaque. Le papa... qui aurait eu une agression contre l'enfant et qui est en arrêt cardiaque aussi, tentative de suicide. À l'urgence, on comprend la situation. Le papa a tué son garçon, sa petite fille. Et là, lui, il est en arrêt cardiaque. Professionnellement parlant, toi, ça vient te chercher. OK?
Ouais.
Est-ce que tu vas faire le massage cardiaque sur cet homme-là? Hein? Je ne veux pas de réponse. Mais ce que je veux dire, il y a des situations comme ça où, à un moment donné, ouf, ça nous fait réfléchir. Ah, parce que moi, je donnais un cours sur la législation dans la profession infirmière et j'ai un paquet, un peu comme ce que l'Ordre a déjà créé, là, un cahier de éthique et profession, je pense, le titre du cahier, là, où il y avait des situations qui pouvaient être conflictuelles avec la profession. Je regardais un petit peu leur situation, mais moi, je mettais ça un peu plus osé.
Okay.
Est-ce que tu peux tomber en amour avec une patiente en psychiatrie? OK, elle est là depuis 3 mois, tu la traites depuis 3 mois. Tu es très sensible à ses charmes particuliers. Est-ce que... Et elle a son congé signé pour la semaine prochaine. Et elle te demande, est-ce qu'on pourrait continuer à se voir? Est-ce que légalement ou éthiquement parlant, c'est correct de le faire? Éthiquement parlant et légalement, c'est non. Parce que cette personne-là est vulnérable et c'est la vulnérabilité qui fait qu'on ne devrait pas entretenir des relations avec des gens comme ça. Versus si ton histoire, l'amour est dans le pré, là, regarde, ton cultivateur qui tombe en bas de son tracteur, se fracture une épaule, va se faire traiter 3 jours à l'hôpital, il ressort, mais il aime bien son infirmière. Il se rend compte à l'exposition agricole, OK? Et il se rend compte et il tombe amoureux de l'autre. Est-ce que ça, c'est correct? Bien sûr. Bien ça n'a aucun rapport. Ça dérange absolument rien, là. OK? C'est une... L'idée là-dedans, c'est tout le temps de dire que le principe de vulnérabilité de la personne qui fait en sorte que tu ne dois pas entretenir certains types de relations à long terme. Quand tu as eu un patient pendant un certain laps de temps. Et ça, l'ordre est assez formel par rapport à ça, ouais. Même si ça se fait beaucoup. Accepter de l'argent, est-ce que c'est correct d'accepter de l'argent de ses patients?
Théoriquement, non, mais
écoute, moi, j'en ai déjà reçu, je le dis pas tout le temps, là, mais là, ce qu'on faisait normalement, c'est que quand on recevait de l'argent, on le donnait
à l'hôpital,
au département, on s'achetait de la pizza un soir, quelque chose du genre. Bon. Ou encore des services professionnels. Tu traites un comptable, toi, tu n'as pas d'argent pour te payer un comptable. Moi, je peux t'y faire tes impôts. Est-ce que tu accepterais ça, de faire tes impôts par un patient que tu as déjà eu? Oui ou non? Je n'attends pas de réponse. Mais moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'on mettait des étudiants en situation où ça pouvait devenir conflictuel.
OK.
Il faut connaître un peu les lois aussi, parce que dans la profession infirmière, ce qui est important, c'est la base. Est-ce que c'est légal que qu'est-ce que je fais? OK? Travailler à l'urgence, il y a une maman qui arrive avec un poupon, un petit bébé. Le petit bébé, il est bourré de bleu. Des hématomes partout. OK? Là, elle raconte qu'elle, il est tombé encore en bas du lit, puis je venais de l'en... Je l'ai juste entendu. Fait que là, bon. Cet enfant-là s'est déjà présenté à l'urgence 2-3 mois auparavant pour avoir les mêmes symptômes, le même tabou cliné. Et là, en discutant avec la maman, elle a un discours qui est plus ou moins cohérent, décousu. Est-ce que, là, à un moment donné, tu te rends compte que, physionomiquement parlant, ses yeux sont très, ses pupilles sont très dilatées, et elle a des gros hématomes dans les plis de coude. Qu'est-ce qu'on fait légalement avec un poupon comme ça, avec un bébé? Ou qu'est-ce que la loi nous dit par rapport à ça? Est-ce que l'équipe, bon, c'est peut-être pas vous personnellement, mais il faut que ce soit déclaré à la loi sur la protection de la jeunesse. On n'a pas le choix, c'est légal. Si l'enfant venait à décéder, il va y avoir enquête du coroner, et l'enquête du coroner va remonter jusqu'au dernier professionnel qui a été consulté. Et si on s'aperçoit que vous n'avez pas fait votre travail correctement, comment se fait-il que cet enfant-là n'a pas été déclaré? Il était dans un état de maltraitance. Ce sont tous des situations, des fois, qui peuvent être intéressantes parce que ça nous fait réfléchir. Évidemment que les étudiants, je leur ressortais la quinzaine de lois qui peuvent nous intéresser en soins infirmiers. Ce qui fait qu'à un moment donné, eux, je leur disais même que, c'est sûr que les lois, il y en a des colosses, là, mettons. Et il y en a qui, les nombres de pages, là, quand tu es rendu à 150 pages, 200 pages, tu n'as pas le temps de lire tout ça dans un cours. Il fallait quand même que je leur dise, dans telle section, qu'est-ce qu'on peut faire dans une situation clinique comme ça? Mais ça, je pense que c'est une belle façon d'approche, de voir qu'est-ce qui peut nous survenir. Puis le fait est que, moi, j'arrivais avec un point de départ, mais la discussion pouvait s'élargir beaucoup plus loin quand on en parle, parce qu'il y en a d'autres. Parce que ce qui était intéressant aussi, André, ici à Saint-Hyacinthe, à pratiquement chaque année, à chaque session, j'avais toujours 3 ou 4 étudiants ou étudiantes qui étaient déjà infirmiers auxiliaires, qui venaient faire leur cours en soins infirmiers. Et eux, de par leur pratique ancienne ou antérieure, ils amenaient eux-mêmes des situations. Moi, ça m'est arrivé telle affaire. Qu'est-ce que je fais? Et ça amenait beaucoup de discussions dans la classe. Et ça, je trouve ça super intéressant. La première question, c'était quoi par rapport à la profession infirmière? Pour toi, c'était quoi? Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que ici à Saint-Hyacinthe, je donnais un cours pendant quelques temps. Et c'était les étudiants qui devaient me définir, eux, c'était quoi leur conception de la profession infirmière. Ils devaient aller me chercher des... Et il y en avait une vidéo qui était sur, à l'urgence, de quel hôpital, je ne m'en souviens plus, à Montréal, et la jeune infirmière était quand même, même pas 30 ans, elle était quand même pratiquement assistante dans un département assez de soins intensifs. Mais la dynamique qu'il y avait autour d'elle, là, tu voyais vraiment c'était quoi un travail d'équipe. il n'était pas question de dire que chacun avait son rôle spécifique à jouer. Ça ne me regarde pas. Ou bon, ça, c'est ton patient. Okay. Là, vraiment, on était capable de déterminer, de trouver c'était quoi un beau travail d'équipe, ce qui fait le lien avec quand on parle d'approche par problème ou approche par situation clinique, de dire que c'est une façon d'enseigner qui permet d'éventuellement de voir qu'est-ce que ça va être ta prochaine profession.
OK.
Tous les cours que moi j'ai donnés ici à Saint-Hyacinthe, j'ai adoré mes cours. J'ai enseigné en première année, en deuxième année, troisième année, un petit peu en troisième année, quelques cours. Mais la troisième année, c'est beaucoup une session de psychiatrie, donc pour moi, c'était automatiquement éliminé. Okay. L'autre session, il y avait quand même trois ou quatre professeurs et ce n'est presque que des stages en dernière session. Parce que ici à Saint-Hyacinthe, c'était pas comme à Montréal. À Montréal, on avait deux admissions par année. Première année, deux admissions, en janvier puis en septembre. Ouais. Ici à Saint-Hyacinthe, c'est que n'est qu'une seule admission. Première année, c'était hyper intéressant. C'est sûr que la deuxième année, c'est intéressant parce que là, première année, souvent les étudiants font du magasinage. Ouais. Est-ce que c'est une profession qui peut m'intéresser éventuellement? Ils ne savent pas trop. Bon, je vais aller voir ça. Fait que souvent, rendu en deuxième année, là, si tu as fait la première année puis que tu es rendu en deuxième, c'est parce que tu veux probablement poursuivre ta formation. Tu n'as pas le goût de dire Mais à quoi ça peut arriver là, qu'en deuxième année, les gens, surtout quand tu arrives les cours en pédiatrie, là, souvent, ça fait les gens n'aiment pas ça ou que c'est trop précis, spécifique, spécialisé. Les gens vont faire en sorte que non, ça me dit rien. Puis en pédiatrie, je me souviens en tout cas de quelques cas que j'ai eus, mais c'était quand même assez facile. Mais c'est quand on est allé en périnate, non, ça c'était vraiment trop pour moi. Là, moi, le voir les bébés dans les petits incubateurs, écoute, c'est tout petit comme ça, puis c'est connecté de partout. Non, pas capable. Je suis allé une fois à Sainte-Justine aussi pour faire un stage avec un autre prof pour voir. Moi, voir les petits bonhommes ou les petites bonnes femmes debout dans leur lit avec les barreaux, là. Ouf! Crève-cœur, pas capable. Mais ça en prend des gens qui sont capables de le faire. Mais ouais. Pas pour moi, c'est pas mal, je suis pas capable.
Mais tu as réussi à passer par-dessus ça, vu que tu aimais la profession.
Oui, ça, effectivement. Ça, oui. Ça, pour l'amour de la profession, là, je dirais que qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est une profession qui, c'est vraiment un service que l'on rend. C'est tellement gratifiant quand tu arrives chez toi le soir, tu dis, hey, moi, j'ai fait la différence dans la vie de personne aujourd'hui. Je les ai aidés. Ça, c'est quelque chose qui vient de toucher. C'est sûr que des soirs, tu arrives à la maison, elle n'est pas eu facile aujourd'hui. Là. Ça, c'est sûr et certain. Et encore là, c'est l'idée derrière ça, c'est la force du travail d'équipe qui fait qu'on est capable de passer au travers de quelque chose. Ce n'est pas une profession où tu vas travailler tout seul. C'est une profession où tu travailles en équipe. C'est une équipe de soins. Okay? Et d'autant plus qu'aujourd'hui, ça date quand même des années 2002-2003, la loi 90 qui a fait évoluer la profession infirmière en développant la profession infirmière ou infirmier praticien, où on visait, parce qu'on parlait toujours de l'autonomie de la profession. L'autonomie, ça veut dire que tu es capable de fonctionner d'une manière autonome, mais toujours en parité ou toujours en association avec d'autres professionnels. Ça veut pas dire que tu fais ta petite affaire tout seul sans t'occuper des autres. Okay? Mais justement, en 2003, le gouvernement a fait, et d'ailleurs, ici, on l'a fait dans la loi 90, on a donné des actes infirmiers aux infirmières auxiliaires, on a donné des actes médicaux davantage aux infirmiers ou infirmières. Et c'est maintenant dans la loi, mais ça fait belle lurette que c'était ailleurs. On parle des pays comme en Australie, ici au Canada, en Ontario, en Nouvelle-Zélande, des pays qui sont beaucoup plus évolués, si je pourrais dire, au niveau de la profession infirmière, parce qu'évidemment, il y a le manque, où il y a peu de médecins, ce sont les personnels infirmiers qui prennent en charge un réseau de santé presque au complet. Quand on vient au niveau de ces rôles-là, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, au niveau de la profession, on parlait de profession autonome, donc, mais ça veut dire autonome, qu'est-ce que ça voulait dire? Bien, ça voulait dire d'augmenter ses capacités. d'où est arrivée la formation sur l'examen clinique qui était davantage poussée. Et là, on se posait toujours la question, qu'est-ce qu'on devrait enseigner au cégep ou à l'université? Examen physique, je parle pulmonaire, cardiaque, abdominal, tégumentaire, peu importe. Est-ce que ça devrait se faire uniquement à l'université ou au cégep? Et qu'est-ce qui devrait être enseigné? Ça aussi, c'est super intéressant. D'ailleurs, c'est un des sujets de mon mémoire de maîtrise. Mais à ce moment-là, c'était de voir, de dire que, bon, un infirmier ou une infirmière qui a ces capacités physiques-là d'évaluation, parce que quand on parle d'évaluation, on parle de l'évaluation de l'état de santé physique et mentale d'une personne. En fait, qui au Québec a le droit de faire une évaluation physique et mentale d'une personne? Le médecin et l'infirmière. Ce sont les deux seuls professionnels. Encore faut-il avoir les compétences pour le faire.
Ouais. Okay.
Évaluer la condition physique d'une personne au niveau de la santé mentale, ça prend une formation particulière. Évaluer la condition physique et d'une personne aussi, ben ça prend une formation particulière. Est-ce que cette formation-là est accomplie aussi au Québec? Je pense que pas toujours. On dit les plus vieux enseignants, les plus vieilles enseignantes, sont hésitantes à aller prendre un stéthoscope et appliquer le stéthoscope dans les régions cardiaques pour dire qu'est-ce que j'écoute comme bruit. Ces gens-là d'ancienne école vont dire ça appartient au domaine médical, ça ne m'appartient pas. Est-ce que moi je dois écouter les bruits pulmonaires, les bruits abdominaux, intestinaux, est-ce que ça m'appartient? Peut-être qu'aujourd'hui c'est plus, ça revient davantage avec les jeunes, les plus jeunes. Les plus vieux, eux, voir le personnel infirmier avec le stéthoscope dans le cou, qui était l'apanage autrefois des médecins, c'était le signature. Quand on voyait des infirmiers, ils se disaient « Oh, ben, qu'est-ce qu'il fait avec son stéthoscope dans le cou? Il ne sait même pas s'en servir. » C'est fait qu'à un moment donné, c'est ça. C'est que cette formation-là est venue s'inscrire dans le début des années 2000 et maintenant. Ça devrait se poursuivre, mais jusqu'où? C'est pas toujours adéquat.
Puis toi, tu l'as vu, l'évolution de la profession.
Tout à fait. Ça, oui. Parce que c'était quoi? Qu'est-ce qui était nécessaire d'enseigner? Je l'ai plus vu à l'université.
OK.
À l'UQAC, je me suis aperçu. Et c'est là que André Laurendeau, oui. À l'UQAC, je l'ai vu, on ne faisait que ça. On avait une situation, une mise en situation, il y avait ça, l'approche par situation clinique. Problème pulmonaire. Une situation clinique. Et là, première chose qu'on faisait en laboratoire, c'était l'enseignement de la fonction pulmonaire. OK?
Ouais.
L'examen physique de la fonction pulmonaire. Ceci dit, pour être prof en soins infirmiers ou en sciences infirmières, c'est sûr que pour le cégep, ça prend ton bac.
Ouais.
En soins infirmiers, en sciences infirmières. Comme je disais tantôt, si tu ne l'as pas, certains cégeps, dont ici à Saint-Hyacinthe, tu peux accéder comme prof. Mais il faut que tu garantisses que ta formation est en cours et que tu vas le finir dans X temps. Ce que tu peux faire des stages, l'accompagnement en stage, mais tu ne peux pas donner le cours théorique. Là, les laboratoires, je ne me souviens plus là, s'ils peuvent les faire ou pas. C'est vague dans ma tête, mais ça n'a pas d'importance. À l'université, c'est sûr que ça te prend ta maîtrise pour enseigner à l'université. Mais si tu parles de grandes universités comme Montréal, tu ne pourras jamais être titulaire de cours, tu vas être chargé de cours.
Okay.
Même chose au niveau des universités du Québec, mais c'est plus spécifique pour les grosses universités, McGill, Montréal et tout ça. Le problème dans l'enseignement, c'est que je m'en suis aperçu, c'est que peu de profs, tu as ton bac en sciences infirmières, mais tu as des bonnes compétences en soins infirmiers, mais tu n'as aucune connaissance en enseignement. Et ça, c'est une lacune. J'en ai parlé souvent ici à Saint-Hyacinthe, de dire, c'est quoi les méthodes qu'on utilise? Est-ce qu'on devrait davantage développer telle chose? C'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai dit, bon, mais la façon dont on construit ici l'approche par problème, ça ne fonctionne pas parce que l'horaire ne le permet pas. Il faudrait tout reconstruire, l'horaire au complet. Ça ne se fait pas comme ça, les approches par problème. Alors, des fois, on veut implanter trop rapidement quelque chose de nouveau qu'on a entendu parler, mais que là, est-ce qu'on a les moyens de le faire? Ça, c'est une autre chose. Alors, à ce moment-là, c'est ça, c'est que le problème est vraiment à la base, c'est que, oui, tu as ta formation requise pour faire de l'enseignement, mais c'est un gros plus si tu étais allé suivre quelques cours, ne serait-ce qu'au niveau du bac en enseignement. Okay. Parce que quand on parle de socio-constructivisme, de cognition, oh boy, OK, là, de quoi qu'on parle au juste? Là? En enseignement, aller chercher quelques cours en sciences de l'éducation, c'est un plus. Parce que c'est sûr, comme tu disais, Marie, quand moi-même, je m'en suis aperçu, quand je suis arrivé pour l'enseignement, puis à un moment donné, je lisais de la déchou, puis on parlait de socio-constructivisme, de cognition, et tout, mais je me suis dit, de quoi qu'on parle? Bien, c'est quelque chose que si tu t'en vas en enseignement, c'est quelque chose que tu devrais connaître.
Fait qu'un conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut s'enligner vers l'enseignement dans la profession,
bac c'est de base, bac en sciences infirmières, mais aller chercher quelques cours. C'est okay. Même pas nécessaire d'aller chercher un autre bac ou peut-être un certificat en enseignement, ouais. Et qui peut être très intéressant pour les cours qui sont donnés en enseignement. Ça, moi, ça serait un gros conseil que je donnerais.
OK, parfait. Ah, ben, merci beaucoup, Claude.
Fait plaisir.
C'est ce qui concluait la première partie avec Claude Gagnon sur l'enseignement des soins infirmiers. J'espère que vous en avez appris plus sur l'enseignement des soins infirmiers avec ce 4e épisode. Afin de m'encourager et de me soutenir, n'oubliez pas de vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute, à la page Instagram et ou à la chaîne YouTube du podcast pour être à l'affût des nouvelles diffusions. N'hésitez pas aussi à partager ou laisser des commentaires sous cet épisode. Vous pouvez aussi me proposer des sujets que vous aimeriez que j'aborde ou me laisser un message si vous pensez que votre participation au podcast pourrait apporter un plus à l'émission. Sur ce, on se donne rendez-vous mardi prochain pour la suite de cet échange.